Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h15, André Berkoff.
Et oui, la grève continue effectivement. Est-ce qu'on aura les trains? Est-ce qu'on pourra entendre siffler le train? Ce n'est pas sûr du tout, y compris pour Noël, on ne sait pas, on va voir. Mais pendant ce temps-là, la misère est là. La misère est là. Vous savez, chacun se bat actuellement. Soit, évidemment, les retraites, c'est très important. Les clans, c'est très important. Les corporations, c'est très important. Chacun se bat pour sa famille et tout, très bien. Mais en attendant, heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour ceux qui n'ont rien ou qui n'ont pas grand-chose. Et on va leur rendre hommage. On parlera aussi comment des ouvriers clandestins arrivent à faire condamner des patrons. Eh oui, parce qu'il y a en France des patrons qui emploient des clandestins en toute illégalité. Et il faut en parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et puis on va parler de la privatisation des aéroports. L'extraordinaire succès de cette privatisation des aéroports, au moment où on va privatiser l'aéroport de Paris. Et puis on va recevoir, évidemment, notre médecin en chef, le docteur Cron, et puis aussi avec lui, le docteur Jérôme Marty. Et ils vont parler de la rage des internes et ils vont parler des retraites également, du régime des retraites, parce que tout le monde est impacté.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et oui, la grève continue, on ne sait pas ce qui va se passer pour Noël, on attend le bâton de Berger, la parole de Martinez, on attend les oracles de Macron, on attend la mâle révolution et résolution d'Édouard Philippe, on attend tout cela. Et on attend de se voir, voilà, les syndicats. Pendant ce temps-là, des millions de Français, eh bien, ils marchent, ils apprennent les plaisirs de la marche à pied. Oui, la marche à pied, c'est bien, mais quand on marche de Meudon à Paris pendant 2 heures ou dans les grandes villes, etc., c'est moins bien. Et en attendant, eh bien aussi le reste, c'est ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas grand-chose, ceux qui sont malades et qu'on... Et heureusement, il y a un certain nombre d'associations qui s'en occupent très bien. On en parle.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Eh oui, on se souvient bien sûr du lancement des Restos du Cœur qui sont toujours là, qui sont plus que jamais là, parce qu'il y a plus que jamais et plus que avant encore des gens qui ont besoin des Restos du Cœur en hiver et qui ont besoin de manger. Et je voudrais vous faire écouter juste un témoignage sonore. C'est une vidéo absolument bouleversante qui est dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Écoutez, c'est absolument terrible.
Je m'appelle Hervé, ça fait 30 mois que je suis à la rue, j'ai un cancer, je vais tous les jours à l'hôpital pour des soins et je dors dans une toile de tente au milieu de Paris, c'est quand même pas très normal.
Ouais, donc du coup tu m'as dit que tu t'appelles Hervé, t'as un cancer et que la société française te laisse dormir dans la rue comme
ça. Ben oui, tout à fait.
C'est pas normal.
Ben non,
c'est pas normal. T'as quel âge, rappelle-moi?
53.
53 ans, et on te laisse comme ça avec un cancer dans la rue?
Ben oui, tu vois, j'ai mon appareil pour mettre mes chaussettes.
T'es français, t'as tes papiers
non.
Et tout?
Non, je suis...
Ça fait combien de temps que...
30 mois.
Ça fait 30 mois?
30 mois.
Mais les gens qui m'aiment, ça va, ils sont sympas avec moi.
Ça va, tu t'en fous un peu?
Ouais.
Ça va? C'est important d'avoir le moral.
Oui, j'ai le moral, moi, toujours.
Toujours, il faut garder le moral.
Oui, toujours il faut garder le moral, voilà. Donc c'est Hervé qui a 53 ans, qui est SDF, qui est atteint d'un cancer. Il dort dans la rue à Paris, dans le 10e arrondissement, depuis 33 mois. D'ailleurs, je dis ça pour les auditeurs du Sud Radio qui sont à Paris ou dans la région parisienne. S'ils peuvent aider Hervé, eh bien écoutez, c'est un appel à tout le monde, parce que c'est quand même hallucinant aujourd'hui, avec tout ce dont on parle, qu'il y ait quelqu'un, même s'il y a une personne, il n'y a pas qu'une personne hélas, qui est atteinte d'un cancer, qui va à l'hôpital, mais qui dort dans la rue depuis, vous avez entendu, 33 mois. Et c'est effectivement des personnes qui organisent des maraudes pour les SDF avec des jeunes de la cité, c'est des gens de la cité qui organisent des maraudes dans Paris et ailleurs, absolument. Eh bien écoutez, ces gens-là nous ont dit d'ailleurs, ces jeunes, eh bien, on a ouvert une cagnotte pour l'organisation d'une cagnotte Litchi, justement, pour recueillir des dons, pour recueillir des fonds. Eh bien, ils disent, nous n'avons pas demandé de subvention, on veut faire des grandes choses avec peu de moyens. Mais concernant ce monsieur, donc Hervé, nous devons agir plus efficacement, c'est pour cela que nous lançons cette cagnotte jusqu'au 25 décembre 2019, nous sommes, je le rappelle, le 19 aujourd'hui, pour pouvoir offrir le meilleur des cadeaux de Noël à Hervé, les moyens de se soigner et pourquoi pas la même occasion de se loger. Voilà. Donc, la cagnotte Litchi est ouverte. Auditeurs du Sud Radio, vous le savez. Et c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Tout a commencé évidemment en 54, hein, en 54, au cœur encore des années, vous savez, on disait les 30 glorieuses, hein. Nous étions au milieu des 30 glorieuses, et bien c'est là où, par le dur hiver de 54, l'abbé Pierre avait lancé un appel à l'insurrection de la bonté pour soulager les sans-abri et les mesureux. Et nous allons avoir avec nous le directeur de la Fondation Abbé Pierre Emmaüs. Eh bien, voilà, ensuite, il y a eu évidemment les Restos du Cœur, et il y a eu aussi, c'est pour ça que je voudrais en parler, c'est tous ces gens qui se battent, des anonymes, des associations, des clubs, des maraudes, tout ce qui organise les maraudes, pour aider ces gens. Et je voudrais qu'on se rappelle de ça, parce qu'au milieu des points, des cotisations, de l'âge pivot, de l'âge d'équilibre, tout ça, c'est très très bien. Et moi, est-ce que j'aurai ma retraite à 3700, moi, retraite à 1200, moi, ma retraite à 1500? Eh bien, n'oublions pas que selon l'INSEE, la France compte de 8,5 à 8,6 millions de personnes pauvres. Le taux de pauvreté, 14% des ménages en 2012. C'est les derniers chiffres de l'INSEE. Mais on sait aussi que ça a augmenté et de plus en plus. Et les inégalités de niveau de vie, selon l'INSEE toujours, avaient augmenté en 2018. Le taux de pauvreté a augmenté de 0,6 points pour atteindre aujourd'hui, encore une fois, 14,7% de la population. Donc, au milieu de ces polémiques, de savoir si on va avoir effectivement tel niveau, est-ce que ça va être systémique ou paramétrique ? C'est bien de parler du systémique et du paramétrique, mais c'est encore mieux peut-être de combattre et d'aider ceux qui n'ont rien. Et je voudrais saluer ici Jean Rousseau, qui est président d'Emmaüs France. Et il y a un livre qui vient de paraître, d'ailleurs, que je vous recommande. C'est les textes de l'abbé Pierre, préfacés par Edgar Morin, La force des infiniment petits. Bonjour Jean Rousseau.
Bonjour.
Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que d'un côté, on se dit, là, on est là, on voit toute la polémique est tout à fait légitime et normale, et tout le débat sur la retraite qui entraîne aussi les grèves que l'on sait en ce moment. Et d'un autre côté, on nous dit, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. On a écouté le témoignage d'Hervé, qui est un cas extrême, mais enfin, il existe. Et combien ? Plus de 60 ans, 65 ans après l'appel de l'abbé Pierre, on n'est pas au même point, mais qu'est-ce qui se passe à votre avis ?
Ben, il faut se référer à ce que nous a dit l'abbé Pierre, c'est-à-dire que quand la considération de la société et de ceux qui décident de la faire avancer n'ont pas la connaissance de ce que sont les situations difficiles, celles des plus faibles, ceux qui n'ont pas la parole ou qui ne peuvent pas exprimer parce qu'ils n'ont pas de moyens de pression, mais quand on oublie tout simplement les plus pauvres, on n'agit pas politiquement. C'est ça que nous dit l'abbé Pierre avec force.
Oui, vous voulez dire qu'en fait, les pauvres, et c'est vrai, n'ont pas les moyens ni d'arrêter les trains, ni d'arrêter les bus, ni de mettre à pied une partie de la population. En fait, ils n'ont aucun pouvoir. C'est ça qu'il faut dire.
Ils n'ont aucun pouvoir, et puis surtout, on ne va pas les interroger, on ne prend pas en compte leur avis quand qu'ils peuvent trouver des espaces pour les exprimer. Ouais. Et donc, l'abbé Pierre disait souvent que quand on ne connaît pas la situation des pauvres, et il parlait à ses collègues, puisqu'il a lui-même été parlementaire, il parlait à ses collègues hommes politiques, si vous ne connaissez pas la situation des gens, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien, vous êtes des ignorants et vous n'agirez pas dans le sens de la justice. Et je me permets de souligner ici que par rapport à toutes ces initiatives qu'on peut et qui sont admirables d'ailleurs, qu'ont les associations, je pense aux Restos du Cœur, et bien d'autres au-delà d'Emmaüs, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce dont ont besoin les gens, c'est pas de la charité, c'est ce que nous a dit l'abbé Pierre, on a besoin de justice. Et donc ça, c'est valable pour tout le monde, c'est pas que pour les retraités futurs, ouais, ou pour les personnels de santé, c'est valable aussi pour les plus pauvres, et notamment ceux qui dorment dehors. Il faut pas oublier quand même que c'est quand même effrayant, quand on regarde les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, de constater qu'il y a encore autant de sans-logis en France.
Est-ce qu'on sait combien à peu près, Jean Rousseau? Est-ce qu'on a une idée? Parce qu'il y a eu plusieurs chiffres qui ont circulé, mais très très différents. Est-ce qu'on a une idée du chiffre de ceux qui dorment dehors, des sans-abri
Je pense qu'il y a un chiffre qui est très intéressant, parce qu'il est, assez nouveau dans sa façon d'être pris en compte, c'est le compte-rendu de ces maraudes qui ont été faites par les Parisiens, vous savez, à l'initiative des habitants dans les quartiers.
Ouais.
Et on arrive sur Paris à 5000 sans-abri, c'est quand même quelque chose d'épouvantable.
Ouais.
Alors, la situation est tragique, surtout dans les grandes villes, puisque c'est là que se concentrent
bien
les
sûr.
Difficultés de logement et d'hébergement, parce qu'il y a aussi toute cette question de l'hébergement d'urgence.
Ouais.
Et la situation est moins tendue dans les zones rurales ou dans les petites villes, mais pensons quand même à cette horreur qui est dans nos grandes villes, qui scintillent en ce moment de leurs richesses, de leurs dépenses, qu'on a ces cohortes de personnes à la rue, c'est épouvantable.
Mais c'est ça que... Mais écoutez, franchement, ça reste un peu... Enfin, incompréhensible. On, tout le temps, les maires des grandes villes ou les édiles municipaux disent « Oui, mais voilà, on a trouvé tel ou tel logement, tel ou tel hébergement, etc. » Et on a l'impression, en fait, que le chiffre augmente, alors qu'il devrait... rappelez-vous, on l'a dit ici, la promesse d'Emmanuel Macron, et il n'y a pas que lui, hein, je n'ai pas en train de... Mais quand il
était... Il y a eu Jospin, qui était très connu pour son intervention 0 SDF.
Voilà, et Macron a dit la même chose, il ne faut plus qu'il y ait un seul SDF, Jospin l'avait fait. Comment vous expliquez que ces gens-là, qui ne sont pas quand même complètement aveugles, comment vous expliquez que, de ce point de vue, malgré tout ce que vous faites à Emmaüs, tout ce que font les Restos du Cœur, et puis, tout, comme vous dites, des milliers d'associations et de bénévoles qui font un travail formidable, comment ça se fait que l'État n'arrive pas à prendre cela en compte?
Je pense qu'il y a une espèce d'irresponsabilité collective sur ce sujet. L'abbé Pierre comparait, parce que je me permets de revenir à l'abbé Pierre,
comparait
à cette situation du mal-logement ou de la pauvreté en général à la question de l'énergie nucléaire.
Oui,
il citait très justement ces décisions du temps de Gaulle, à savoir qu'on va en France se doter de l'énergie nucléaire, ce qu'on a obtenu au bout de 10 ans, parce qu'on a mis en ordre toute l'action politique dans tous les domaines, avec des conseils interministériels et tout ce qui s'ensuit, où tous les objectifs économiques et tout ce que vous pouvez imaginer, industriels, étaient focalisés sur cet objectif qu'on a atteint. Et donc sur la question de la pauvreté, et aussi du mal-logement en particulier, parce que c'est un point clé,
mais
il faut aussi bâtir des politiques où on a véritablement des priorités, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Je pense en matière de logement, par exemple,
On
sait qu'il y a encore ces sans-abri, ce manque de logement, ces files d'attente pour le logement social, alors qu'on sait pertinemment que c'est un cercle vertueux, vous logez les gens, donc il y a des tas d'économies qui se font en termes d'action sociale, mais il y a aussi l'emploi dans le bâtiment, il y a aussi développement de la transition énergétique, on a un cercle 100% vertueux, et on ne décide pas que c'est une priorité. Donc il y a aussi cette force des choix politiques qui sont faits ou qui ne sont pas faits.
Tout revient à ça, vous avez tout à fait raison. Merci Jean Rousseau, et je rappelle le livre qui vient de sortir et que vous avez publié, dont vous avez dirigé la publication, l'abbé Pierre, des textes de l'abbé Pierre, magnifique texte, La force des infiniment petits. Eh bien, il faudrait que ces infiniment petits qui sont encore plus forts et qu'on les aide encore mieux.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous.
Eh oui, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on parle beaucoup, vous savez, des clandestins, des illégaux. Effectivement, les migrants qui sont là en clandestin, eh bien, c'est totalement illégal. Mais ce qui est intéressant, et on l'a vu à diverses reprises, ce sont ces employeurs tout à fait français, eux, eh bien, qui emploient ces migrants illégaux, sans papier. Pourquoi ? Évidemment, parce qu'on peut les payer beaucoup moins cher. Eh oui, on n'oublie pas, on est effectivement progressiste et humaniste, mais d'abord le portefeuille. Donc évidemment, un sans-papier, il acceptera des salaires et des conditions que n'accepteront jamais la personne qui a des papiers.
Sachant c'est qu'en plus, simple. Il vit sous la menace d'une expulsion permanente.
Donc ils sont prêts à tout accepter. Eh bien, il y a une décision de justice qui va faire, à mon avis, jurisprudence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, des travailleurs maliens sans papier, 25 ouvriers maliens sans papier, qui étaient employés sur le chantier Breteuil-Ségur à Paris dans le 7e, portés par le groupe d'assurance Covéa, ont obtenu plus d'€1 million de dommages et intérêts. Je répète, pour 1 million d'euros de dommages et intérêts pour discrimination raciale systémique. C'est une première en France. Et oui, parce qu'ils étaient, voilà, ils ont dit, écoutez, voilà, on a été maltraités, on a été très mal payés, ils ont obtenu un million devant le Conseil de Prud'homme de Paris. C'est la première fois. Donc, ils recevront, chacun des salariés recevra 34 000 € chacun et près de 3 000 € de salaire en retard. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, conditions indignes, évidemment. Un ouvrier penché sur un échafaudage branlant, rafistolé avec des câbles électriques, chute lourdement sur le sol, victime d'une fracture ouverte. D'autres manœuvres ont eu des accidents. Et là, ils ont dit, ça suffit. Ils ont été soutenus par les syndicats. Ils se sont mis en grève. Ils occupent le chantier. L'inspection du travail est venue voir. Eh bien, ils ont dit, c'est pas possible, un rapport de 300 pages, conditions indignes. Alors voilà ce qui se passe, voyez. On parle beaucoup, effectivement, des migrants, des illégaux, des sans-papiers. Il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on sait que 5% simplement de ceux qui devraient être reconduits le sont vraiment et quittent la France. Mais on parle beaucoup moins, et oui, on parle beaucoup moins des patrons qui les font travailler,
les profiteurs,
et qui les exploitent, absolument, qui les exploitent, qui sont payés, évidemment, ces hommes sans papier de main en main, de la main à la main, sans le moindre contrat, sans aucune protection, ni gants, ni chaussures de sécurité, ni casque, disaient leurs avocats. Et bien voilà, il y a un problème très simple, c'est qu'il faut savoir que, effectivement, ces patrons qui emploient et qui sont prêts à exploiter, évidemment, la moindre faille et qui savent que les autres ne peuvent pas répliquer, eh bien, ils ont répliqué. Eh bien, voilà, ça crée une jurisprudence, ça s'est passé d'ailleurs chez Chronopost il n'y a pas longtemps. Voilà, et là, à mon avis, les patrons vont réfléchir à deux fois avant d'embaucher ces populations. Mais surtout, le scandale, c'est cette exploitation lamentable. Alors, qu'on contrôle et qu'on régule les immigrants, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, oui, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais qu'on laisse des patrons, je dirais des patrons voyous, faire ce qu'ils veulent et exploiter lamentablement la population, c'est encore pire.
Mais vous voyez que la justice fonctionne dans ce pays de temps en temps. Vous êtes content
de
saluer cette décision, camarade Berkoff.
C'est ce que je viens de faire.
Justement, c'est l'esprit de Noël qui commence à envahir l'ami Berkoff. À quelques jours de la date fatidique, les amis, 0826-300-300, vous nous appelez. Est-ce que vous allez donner, tiens aussi, vous aussi, pour Noël, notamment pour aider les sans-papiers, par exemple. Vous nous le dites, on vous donne la parole à partir de 13h. À tout de suite sur Sud Radio.
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Oui, on va parler encore de Greta Thunberg et on va lui opposer un autre jeune qui est à peine plus jeune qu'elle, mais qui est autrement plus efficace. On va parler évidemment des transports. Hein. Vous rêvez tous de rejoindre votre famille à Noël, ou votre famille rêve, elle aussi, de venir vous rejoindre. Ah, mais c'est pas sûr. On va en parler, et puis on va parler évidemment du langage. Et surtout, on va recevoir notre médecin en chef, Bernard Cron, et nous allons recevoir Jérôme Marty. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les médecins sont à leur tour dans tous leurs états, et pourquoi les internes n'en peuvent plus ?
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Je ne m'en lasse pas. Vous savez que, auditeurs du Sud Radio, là, on me retient aussi bien Jean-Marie que Clémence, que tout le monde me dit non, je voudrais passer Greta Thunberg. tous les jours.
C'est machinal, hein, ça va être votre sonnerie de téléphone, hein, si
mais
ça continue.
Greta, pour moi, comment vous dire, c'est Shirley Temple, c'est Rintintin, c'est formidable, quoi. Elle est Rintintin, oui, enfin, elle est formidable. Non, mais j'adore le How Dare You.
Qui a volé votre jeunesse, André Bertrand?
Ah là là, personne, heureusement, personne. Je ne suis pas comme elle, cornaquée par des parents qui l'utilisent pour je ne sais quoi. Enfin, écoutez, Greta Thunberg, symbole de génération. D'ailleurs, on l'a vu, on ne va pas en reparler, la pauvre. On la voyait, vous avez vu, sur un train où elle était par terre, entre des bagages, en fait. Elle est en première classe, mais elle est allée par terre pour la photo. Mais ça, ce n'est pas grave. Bon, c'est très bien, elle prend conscience, mais qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Et je voudrais parler, et c'est pour ça qu'on l'a fait certaines, de Bojan Slat. Bojan Slat a 25 ans. Vous savez ce qu'il a fait? Lui. Alors, on parle de récupération. Lui, avec son groupe de recherche, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Il a mis au point un système de récupération des plastiques dans les océans qui, placé en situation réelle, s'est révélé très efficace et qui pourrait à terme apporter une solution à ce problème. Sauf que lui, Bojan Slat, ses recherches ne sont pas financées et très peu médiatisées. Et oui, il ne crie pas « How dare you » sur tous les... Et lui, il veut dépolluer les océans. Il travaille, il recherche, il trouve. Voilà. Si au lieu d'aider les clowns médiatiques, aider les scientifiques, les jeunes, les moins jeunes, qui cherchent des solutions et qui font. Voilà pourquoi c'était coup de cœur, coup de colère pour Bojan Slat.
Et en tout cas, est-ce que vous avez aussi des idées, des innovations à soutenir justement pour sauver la planète? Pourquoi pas 0826 300 300, on vous donne la parole à partir de 13h. Mais avant ça, on va essayer de prendre le train avec André Bercoff.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Eh ben oui, mais votre beau sapin, hein, vous l'aurez en plastique chez vous ou pas. Mais alors, pour aller en forêt, ça va être plus compliqué. Eh oui. Et pourtant, mardi, c'est-à-dire avant-hier, il a fait une visite sur le terrain à la gare du Nord, Jean-Baptiste Djebbari, le nouveau ministre des Transports, et voici ce qu'il a annoncé.
L'ensemble des Français qui ont un billet, effectivement, auront un train garanti. Vous savez que la SNCF a régulé les réservations de manière à s'assurer que les gens qui réservent un billet puissent monter dans les trains.
Eh bien, écoutez, on ne va pas donner de nom, mais on pourrait le donner. Il y a ici, dans l'équipe de Sud Radio, il y a plusieurs personnes, ici, chez nous, à Sud Radio, eh bien, qui avaient acheté leur billet, qui ont leur billet. On leur a dit que vendredi, samedi ou dimanche, non, il n'y aura pas de train pour leur destination. Voilà. Alors, quand M. Djebbari, ministre des Transports, dit « Oui, l'ensemble des Français qui ont acheté un billet auront leur train », ce n'est pas vrai, hélas. Je ne dis pas que c'est sa faute, mais enfin, arrêtez les promesses de Gascon. Vous engagez, 850 000 personnes avaient réservé un trajet en TGV entre jeudi et dimanche. Eh bien, tous ne pourront pas partir. Il vaut mieux le dire. Pourquoi? Alors, ils essayent. On a eu des témoignages ici à Sud Radio. Eh bien, site est surchargé, bug sans arrêt, impossible même d'échanger pour un billet 3 jours plus tard. Voilà. Alors, d'après une information Sud Radio, tous les TGV annoncés, soi-disant confirmés, ne partiront pas. On verra. Alors, un cas de la SNCF qu'on a interrogé dit, nous n'avions pas besoin de ça, vous en le maximum. Mais comment imaginer qu'en pleine grève dure, nous puissions faire circuler 100% des gens qui ont un billet? C'est illusoire. Et je ne parle pas des enfants qui devaient partir seuls. 6000 enfants devaient partir seuls, eux, alors on l'oublie. Les parents oublient, les enfants oublient. Voilà. Alors, ce qu'on dit simplement, Monsieur Djebbari, c'est pas la peine de promettre des choses que vous ne pouvez pas tenir. Dites-le, ça va être difficile. Et on voit très bien, en tout cas, que pour le moment, à l'heure où on vous parle, eh ben, franchement, ça ne s'arrange pas. On espère toujours, évidemment, qui ne pourrait pas espérer que les Français puissent partir dans leur famille ou ailleurs à Noël. Mais pour le moment, ça ne se passe pas. Alors écoutez, la communication, c'est aussi l'art de se taire quand on n'est pas sûr de remplir ses promesses.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Et il faut voir comment on nous parle, disait Alain Souchon. Effectivement, c'est magnifique. Parce qu'en ce moment, là, je ne pouvais pas finir sur une note avant de parler, évidemment, des témoignages des médecins, sur les médecins, etc. Alors, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez, c'est les différences de langage. Vous vous rappelez que le ballon, ça s'appelle plus un ballon de football. On dit un référentiel bondissant.
Qui dit rebondissant.
Ça? Rebondissant. Comment? Mais
vous
ne lisez pas les nouveaux manuels.
Mais les manuels de qui?
Les manuels pédagogiques à l'école. Par exemple, tu gonfles des ballons de toutes les couleurs que tu fais monter au plafond. Écoute bien, C'est authentique. Ah ouais. Tu colles des lettres en papier sur le mur. Avant, ça s'appelait une kermesse à l'école maternelle.
Ouais.
Et on faisait des... Eh ben maintenant, Jean-Marie, il est temps quand même que vous mettiez à la page, vous êtes de l'ancien monde. Maintenant, on appelle ça un nouveau tiers-lieu collaboratif et agile. C'est pas beau, ça?
Ah,
c'est un nouveau.
Un effecteur de santé, maintenant.
Voilà, un effecteur de santé. C'est pas beau, ça? Eh bien, voilà. C'est Marlène Schiappa qui
l'a appris. On avait technicien de surface auparavant pour
les techniciens de surface, etc. Et voilà. La Direction Générale de la Cohésion Sociale, nous dit Marlène Schiappa, inaugure son lab. On va dire laboratoire, lab. Nouveau tiers-lieu collaboratif et agile via la transformation de l'administration. Heureuse de saluer à cette occasion les agents de l'État qui font vivre les politiques publiques de cohésion sociale. Marlène Schiappa, il est temps de parler en français, je vous assure, ça fera du bien à tout le monde et surtout à vous.
Restez avec nous en tout cas les amis sur Sud Radio, votre référentiel bondissant, parfois gonflant, Berkoff dans tous ses états, revient dans quelques instants pour
tu
nous parler de votre santé.
Tu sais qui te dit référentiel gonflant?
J'étais sûr que ça lui plairait à l'ami Berkoff. 0-826-300-300, vous nous appelez pour réagir à partir de 13h. Dans quelques instants, on va parler de la situation dramatique de l'hôpital et notamment des internes de santé avec notre invité, le docteur Cron. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Qu'est-ce qui se passe chez les médecins? Qu'est-ce qui se passe effectivement chez les infirmiers? Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que pour cette grève, très spécialement d'habitude, ça restait à telle ou telle ou telle corporation, corps de métier, etc. Là, on a l'impression que toute la société française, en tout cas qu'une grande partie, est impactée par cette histoire des réformes, des retraites. On en parle tout de suite.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et on en parle tout de suite avec le médecin traitant de cette émission. On accueille Bernard Cron, membre de l'Académie nationale de chirurgie, vice-président de l'internat de Paris.
Alors Bernard Cron, il a écrit un très beau livre sur la chirurgie, la mort chronique d'une mort annoncée. Il en prépare un autre qui va sortir l'année prochaine et qui va aussi faire beaucoup de bruit. Bernard Cron, d'abord, dites-moi, qu'est-ce qui se passe chez les infirmiers? On entend qu'il va y avoir aussi un mouvement qui commence, et à moi, un mouvement très fort chez les infirmiers. Vous voyez, ça touche un peu diverses couches. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Bonjour André. Ben, ça avait commencé déjà en mars, puisque les services d'urgence étaient en grève, surchargés par l'afflux des urgences. Les infirmiers, comme beaucoup de salariés, sont très mal payés. Ils ont des services de nuit, ils sont fatigués, on leur demande énormément de choses. Et ils ne peuvent pas se loger à Paris pour l'assistance publique, puisqu'un salaire d'infirmier pour une aide-soignante, c'est 1 300 euros, et pour une infirmière, c'est 1 500 à 2 200 euros. Donc elles
c'est
sont...
la moyenne, ça.
C'est la moyenne.
C'est la moyenne, oui.
On va changer le système avec la loi 2022, puisqu'on veut créer le master, c'est-à-dire avec 2 ans de plus, on va leur faire une délégation de tâches qui nécessitera 2 ans de formation supplémentaire. Mais en discutant avec des infirmières récemment, elles m'ont déjà dit « Mais la délégation, on le fait déjà. Comme il n'y a personne, comme les internes ne sont pas disponibles, et maintenant qu'ils vont être en grève, la délégation de tâches, on la fait déjà. » Donc en prolongeant indéfiniment la durée des études, en mettant toute une classe d'âge au bac et en université, on ne forme plus de vrais professionnels. Et c'est le problème du drame des internes qui actuellement sont en grève, sinédiés. Et je me rappelle...
Ils sont déjà en grève.
Ils sont en grève.
Oui.
Ils sont réquisitionnés, c'est une erreur de l'État, parce que comme ils ne sont plus des internes titulaires, mais des juniors médecins en formation, ils n'ont pas le droit d'être réquisitionnés. Alors, je voudrais donner, André, 3 dates.
Oui.
1802, le concours républicain créé par Napoléon pour avoir des internes dans les hôpitaux et des internes à la tête de ses armées pour soigner les blessés. 2002, Kouchner, suppression du concours de l'internat, car après avoir en mai 68 supprimé l'externat, ce qui n'avait pas fait de bruit, on voulait donner l'externat pour tous, maintenant c'est l'internat pour tous.
Or, 2002.
2002. Or, on se rend compte maintenant que nos jeunes internes, et je les salue dans leur courage, plusieurs se sont suicidés cette année, désespérés.
Vous dites une dizaine, à peu près 10
6 à 10, on ne sait pas exactement le nombre exact, parce qu'il y a une omerta sur ces suicides. Il y a d'autres médecins qui sont suicidés à l'hôpital, en se jetant par la fenêtre. Les médecins sont désespérés parce que l'État a pris tous les leviers. Et notre Premier ministre, droit dans ses bottes, parce que c'est un... jupéiste, c'est ce qu'on reprochait en 95-96 à Juppé avec ses ordonnances, qui était le début de la destruction du système de santé. Faut pas oublier, André, qu'on était numéro un à l'époque, avant que l'État s'occupe de notre système. Eh bien, nos internes sont désespérés. Alors, pourquoi sont-ils désespérés? Ils sont 27 000. Ce sont eux qui font marcher les hôpitaux, car il n'y a plus de seniors pour les aider dans de très nombreux hôpitaux, parce que les seniors, 600 ont menacé de démissionner à l'assistance publique, 102 médecins de l'assistance publique appellent à une réforme de la gouvernance, car il n'y a plus de chef de service avec...
On a vu les 660 qui menacent de démissionner.
Exactement.
660 médecins.
Donc les internes sont désespérés, car ils sont lâchés dans la nature sans une formation préalable que permettait le concours de l'externat. Mais faire des concours, c'est interdit, la sélection est interdite. Alors on va avoir des effecteurs de santé, ça s'appelle des médecins. Mais quelle seront la qualité de ces médecins? Voilà, André, la situation de nos jeunes collègues. Alors, j'en appelle au syndicat de l'ISNI, qui est le syndicat national des internes. Je les appelle à rejoindre notre association des anciens internes de Paris, nommée par concours, qui est la sagesse et la mémoire de l'internat. Il est évident qu'il faut faire un appel auprès de Buzyn pour restaurer la qualité de l'internat. Or, restaurer une qualité, ça nécessite une préparation pendant le premier et le deuxième cycle des études médicales.
Qui n'est pas faite en ce moment.
Ah, c'est une catastrophe, parce que, point de vue démagogique, ils ont supprimé le numerus clausus, donc on a 60 000 étudiants lancés dans la nature. Quand on les interroge, près de 50% envisagent d'arrêter.
Vous étiez pour la suppression du numerus clausus,
mais non ? Pas de cette façon-là. La suppression du numerus clausus à la sortie, pas à l'entrée.
Oui, bien sûr.
À la sortie. Or, le numerus clausus à la sortie persiste. On n'a actuellement que 8200 médecins à la sortie des études de médecine.
Alors qu'il en faudrait bien plus.
Il en faudrait 10 à 12 000, et ils attendent l'arrivée de l'intelligence artificielle pour secourir les médecins, mais ça ne tient pas debout.
On en a parlé, on en reparlera encore, Bernard Cron. Je voudrais aborder un autre sujet, puisqu'on est en plein dedans. Alors, vous avez eu tout ce qui se passe, le débat national qui a entraîné les grèves que l'on sait, les paralysés que l'on sait sur la réforme de retraite. Quid de retraite des médecins? Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup de médecins qui sont un peu, je dirais plus qu'enragés, qui sont en très, très grande colère face à cette réforme de retraite. Pour ceux qui les concernent, ils ne sont pas touchés.
On va être touché parce qu'on a une caisse de réserve qui est gérée par la CARMF et cet argent va partir dans le système national.
Vous cotisez les médecins?
On cotise pour notre retraite dès qu'on commence de travailler.
Oui.
Et ensuite, on a une retraite. Il ne faut pas croire que la retraite est mirobolante. La retraite est un tout petit peu au-dessus de 3 000 euros par mois, qui est
comme la RATP,
qui est inférieur à celui de la RATP qui arrête son métier à 52 ans.
D'accord.
Donc cette retraite n'est pas mirobolante, mais on a une caisse de réserve, car on ne sait pas s'il y aura beaucoup de médecins dans l'avenir avec l'intelligence artificielle qui nous pend au nez, puisqu'on veut remplacer les médecins par les effecteurs de santé et les cabines diagnostiques. Donc on a une caisse de réserve. Mais l'État, qui s'est tempéré de tous les leviers en 96 avec les ordonnances Juppé, rappelez-vous l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de santé, ils sont tempérés de la sécurité sociale. Maintenant, ils veulent s'emparer des caisses des 42 régimes. Or,
qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils veulent s'emparer des caisses des régimes?
Parce que c'est un système universel par points.
Ah oui, donc ils disent, alors, à nous le magot, et c'est nous qui allons l'administrer.
Et ils vont administrer le magot.
C'est ce qu'ils disent pour les avocats, ce serait pour les avocats,
tout
ce serait pour les médecins, etc.
Tout à fait, les 42 caisses, ils veulent s'emparer du magot. Rappelez-vous la CADES, vous avez mis le doigt dessus, où il y avait encore des réserves, puisqu'on a remboursé le reste de la dette sociale en 2024.
24 milliards par an à partir de 2024.
Voilà. Ouais. Et donc l'État fait mal ce que les gens font bien. Parce que l'État, c'est une administration tentaculaire. J'en avais parlé avec la réforme des hôpitaux. Il n'y a aucune réforme des hôpitaux.
Mais juste un mot, Bernard Cron, pour rester, histoire des retraites. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, qu'est-ce que les médecins feront si jamais on dit, bon, ben écoutez, voilà, c'est le régime universel, plus de régimes spéciaux, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe, d'ailleurs. Après, vous avez vu qu'il est revenu pour les policiers, qu'il est revenu pour les enseignants, ça va être valorisé, etc., etc. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il va quand même céder en disant, bon, allez, les médecins, les avocats, vous allez garder votre système? Et qu'est-ce qui se passe s'il dit, non, non, écoutez, vous entrez et vous rentrez dans le régime universel? Qu'est-ce que vous ferez?
C'est difficile de savoir la position de notre président de la République, parce qu'il est un petit peu l'otage des lobbies financiers et des grands lobbies qui soutiennent son gouvernement. Les médecins l'ont annoncé. Mon ami Jérôme Marty l'a dit il est le président du syndicat des médecins libéraux, ils vont se mettre en grève. Car
Dans notre pays,
la seule façon de se faire entendre, c'est de prendre les Français en otage et de se mettre en grève. C'est triste.
Mais, oui, c'est triste, on le voit maintenant.
Ils vont fermer un jour le cabinet, il y aura un Black Friday encore. Les internes l'ont annoncé aussi. Les internes vont être, eux, en grève, s'inédier tant qu'ils obtiennent. Savez-vous, André, combien est payé un interne de garde la nuit?
Combien?
Bac plus 7, Black plus 8.
Bac plus, oui.
7 à 9 euros, moins qu'une babysitter.
7 à 9, attendez, 7 un infirmier à 9 euros. Bac plus 6 est payé un 7 interne. À 9 euros de l'heure.
De l'heure, un interne. Leur salaire en fin d'internat, c'est-à-dire en 10 à 12e année de médecine, 2000 euros.
2000 euros par mois.
2000 euros par mois. Pour des semaines de 55 à 100 heures en chirurgie.
Oui, il faut
avec
le rappeler,
des gardes
ça.
Où on ne ferme pas l'œil. Parce que contrairement à nos générations, puisqu'on compare des choses qui sont comparables, le statut de l'interne, ma génération, nous étions mi-temps à l'hôpital. Nous pouvions enseigner à la faculté si on passait un concours qui s'appelait le concours de l'adjuvat et on finissait chef de travaux d'anatomie. On avait un double salaire. Car il y avait le salaire de l'interne et le salaire universitaire. Maintenant, l'interne a un seul salaire. Et ce salaire se rapproche du SMIC pour la première année d'internat. Et ils ne sont pas préparés à la prise en fonction, car il n'y a pas d'externat formateur actuellement, puisqu'ils sont stagiaires avant.
Donc, effectivement, on comprend, c'est une espèce de prolétarisation, smicarisation, effectivement, de l'internat, et on comprend qu'ils se mettent en colère. Bernard Cron, nous allons continuer avec vous.
Une colère très grave. Oui. Dans le Grand Est, par exemple, un interne qui termine son internat va être mis en big machine, c'est-à-dire il va faire la liste de ses préférences de spécialité et d'hôpitaux, mais c'est l'agence régionale de santé qui va décider pour lui.
Toujours l'agence régionale de santé.
Et il va être muté dans une région qu'il ne connaît pas.
Eh bien justement, vous nous direz quelle région. Dans quelques instants, Bernard Cron, juste après les informations sur Sud Radio, André Bercoff reste ici, fidèle au poste. Vous nous appelez les amis, 0826-300-300. Est-ce que vous soutenez les internes manifestement très inquiets pour leur situation et pour leur avenir? Vous nous appelez, vous venez nous en parler. Vous pouvez réagir également à l'ensemble des sujets qu'on a pu aborder avec André Bercoff. À tout de suite sur Sud Radio.
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Oui, en ce moment, on a l'impression que les Français parlent aux Français, mais que beaucoup sont sourds et beaucoup n'entendent pas les Français. Alors, on va en parler avec vous, auditeurs de Sud Radio. On vous attend.
Parlons vrai sur Sud Radio et entendons-nous au 0826 300 300. Je rappelle qu'on est toujours en compagnie de l'invité d'André Bercoff, Bernard Cron, membre de l'Académie nationale de chirurgie et vice-président de l'internat de Paris. 0826 300 300, je le disais. Tout de suite, on accueille Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan.
Oui, bonjour. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Voilà, je voulais dire que j'ai apprécié le discours de votre invité, là, monsieur Bertrand.
Monsieur Bernard Cron, oui.
Bernard Cron, pardon. Oui. Concernant la crise sur la retraite, là, je voudrais dire que je ne me sens pas représenté par les syndicats, parce que je n'adhère à aucun, et je ne veux pas être représenté par eux en plus, mais je soutiens la grève, parce que c'est le seul moyen, malheureusement, dans ce pays, d'espérer pouvoir se faire entendre. Et comment dirais-je, je pense que même si le gouvernement et les syndicats trouvent une solution sur le sujet, la crise est tellement profonde dans ce pays que ça ne résoudra rien. Ouais. Il arrivera un moment où tout va craquer, partout. Voilà. J'entendais votre invité qui disait que Macron était l'otage des financiers, c'est une réalité, comme l'a été Hollande avant lui et comme l'a été Sarkozy précédemment. La différence, c'est que ce sont les financiers qui ont fait partir Hollande parce qu'ils savaient que Hollande ne serait pas élu. C'est pour ça qu'Hollande est parti par la petite porte parce qu'ils ne voulaient plus le financer. Et ils ont préféré financer Macron pour opposer quelqu'un de jeune à Marine Le Pen, parce que sinon c'est Marine Le Pen qui dirigerait le pays. Donc, et maintenant, nous avons ce que nous avons, c'est-à-dire que nous avons l'incompétence, parce que Ce n'est pas un homme d'État, je suis désolé, il a beau être élu président de la République, c'était un banquier, ce n'est pas un homme d'État.
Et voilà, Jean-Paul, une chose, et je, oui. je vous entends tout et on vous a entendu, est-ce que vous pensez que ça va aller plus loin? Vous pensez qu'aujourd'hui c'est au-delà des retraites et qu'il y a de véritables fractures dans la société profonde?
Tout à fait, la communauté, il n'y a pas de cohésion sociale. Les gens, une majorité de personnes en aura le bol du communautarisme, de la ligue LGBT et de tout ce qui nous emmerde, excusez-moi, par la vulgairement tous les jours. Allez-y. On a d'autres soucis que ça. Il faut retrouver de la cohésion sociale, il faut retrouver du plaisir à aller travailler, il faut retrouver que les gens, quand ils vont travailler, aient un billet à la fin du mois, et ainsi de suite. Voilà, c'est plus possible. Les milliardaires et les millionnaires sont de plus en plus riches, et les gens qui travaillent de plus en plus pauvres. Voilà, ce n'est pas normal.
Merci et Jean-Paul. Allez-y. Allez-y.
Je ne fais pas partie de la France insoumise, hein, je vous le dis, mais il faut un peu retrouver de cohésion, de bon sens, et les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre dignement de leur travail.
Oui, vous
et
faites partie de la France du bon sens, absolument. Je voudrais que Dr Bernard Cron vous réponde, en tout cas.
Vous avez tout à fait raison, cher auditeur. Il faut simplement savoir que la loi Veil imposait, quand il y a un dégrèvement de cotisation, que l'État le compense. Or, il y a beaucoup de dégrèvements qui existent pour relancer l'économie.
Quand vous dites dégrèvement de cotisation,
eh bien, cotisation, par exemple, sur les gens, l'emploi à domicile, c'est dégrévé de cotisation.
Ouais.
Pour certaines industries, il y a des dégrèvements. Eh bien, l'État doit compenser, c'est la loi Veil. Deuxièmement, il y a des chiffres qui sont incontournables, c'est que les 500 000 travailleurs détachés qui travaillent en France ne cotisent pas à la caisse de retraite. Or, il y a deux chiffres incontournables, c'est que l'âge moyen de vie a augmenté, donc on ne peut pas maintenir la retraite à 52 ans pour les cheminots et à 60 ans pour l'ensemble des citoyens français comme le propose Marine Le Pen. Il y a une insuffisance de cotisation à cause de ces dégrèvements et surtout à cause du chômage et par des salaires très bas, tirés vers le bas par les pays de l'Est qui ont des salaires beaucoup moins élevés que chez nous.
Et sans oublier, pardon, on en a parlé ce matin dans Berkov, dans tous ces états, sans oublier certains patronats qui utilisent les travailleurs clandestins et les sans-papiers pour les payer des clopinettes.
D'où l'envie de 50 millions d'immigrés qui veulent attirer en France et en Europe pour pouvoir payer les cotisations des futures retraites.
Bon, on remercie Jean-Paul. En tout cas, on lui souhaite une bonne journée du côté de Draguignan. Et on part à Bordeaux où Olivier nous appelle au 0826-300-300. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'accueillir ma parole. Je vais essayer de faire synthétique parce que du coup, comme j'écoutais l'intervenant précédent. Je pense qu'il ne faut pas confondre la base syndicale et les têtes d'organisation parce qu'on a une grosse crise du syndicalisme en France, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être syndiqué ou syndicaliste, mais ce qui veut dire qu'on est dans une crise et qu'ils sont dans un mouvement qui, à mon avis, les dépasse et ils essayent aussi de saisir une opportunité d'essayer de retrouver une place.
Olivier, que c'est la base aujourd'hui qui tient le rythme et qui déborde organisations syndicales.
Oui, je sais, moi, que la base, elle a obligé Martinez à aller au charbon et qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent plus représentés par les syndicats et pourtant c'est encore à ma connaissance la seule alternative au travail. Mais le syndicalisme par essence normalement il a des représentants, il n'a pas des chefs, c'est-à-dire que M. Martinez il est censé porter la parole de tous les syndiqués et il n'est pas censé porter sa parole et fort heureusement d'ailleurs. Donc oui, il a été remué pour pouvoir rentrer sur cette position. D'ailleurs, quant à Berger, il le dit lui-même, il dit je ne suis pas sûr que ma base va m'écouter. Là, on peut se dire à un moment donné, voilà. Bon, ça, c'était la parenthèse syndicale. Moi, je voudrais quand même, puisque j'ai écouté l'intervention sur la paupérisation des internes, par exemple, je trouve que c'est extrêmement important de s'arrêter un peu sur le côté de la santé et de l'attitude de l'État par rapport à la santé, du mépris, du cynisme. Ils sont censés gérer de l'argent public avec une mission d'intérêt général et ils sont en train par exemple dans ce cas précis de dépouiller la santé, de dépouiller les ressources publiques qui devraient être augmentées pour la santé Ils sont en train de dédépouiller.
Ils font ça tout le monde, oui.
Et ils font ça pour les retraites, ils font ça pour tout, pour le privé, comme la capitalisation. Et là, à un moment donné, on ne les arrête plus. Là, on a un rouleau compresseur qui est parti. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Ah,
juste un mot. Vous estimez, Olivier, qu'on va vers une retraite par capitalisation et les fonds de pension?
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'ils sont fous là-haut. Ils sont déconnectés et fous. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont. Hein. Macron, c'est un peu, et je vais être un peu brut de fonderie, hein, mais c'est l'enfant prodige du capitalisme avec toute la toute-puissance d'un gamin au stade anal. Voilà ce que ça me fait. Moi, ça me fait flipper, je vais vous le dire. En tant que citoyen, je me dis, mais il n'entend pas. Il est capable de dire qu'il y a 4000 personnes dans la rue quand il y en a 400 000. Il ne veut pas entendre. C'est pas la rue qui gouverne, etc. On est en train de stigmatiser les grévistes. Et d'ailleurs, M. Berkoff, à ce sujet, la gratuité dans les transports, c'est pas une solution. Je vous écoutais hier. Ouais. Le principe de la nuisance, justement, de la grève, c'est le rapport de force. Malheureusement, si on était dans un État comme la plupart des États en Europe où on peut discuter avant de faire la grève, la particularité de la France, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de négociation possible. Et ça, ça devrait aussi remettre en question ce qu'ils... Alors après, ils mettent des mots, hein, la novlangue, le dialogue social, les partenaires sociaux. Il n'y a pas de partenaires sociaux, ça n'existe pas. On n'est pas partenaire avec celui qui nous exploite quand c'est comme ça.
Oui, mais enfin, on peut discuter quand même. On peut discuter, Olivier. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas. Non, mais moi, je vous dis.
Avec qui?
Oui, mais je vous dis juste là-dessus. Moi, je pense, je continue à penser que si dans une grève pareille, excusez-moi, si on se met, parce que la population, oui, et je regarde pas les sondages, mais quand même, moi, je vais vous dire, quand je vois des gens qui sont encore plus précaires que certains grévistes et qui font 2 heures aller, 2 heures retour, alors évidemment, la grève, je comprends très bien les motivations de la grève, mais je ne comprends pas qu'on ne dise pas à un moment donné, mais il mettrait le gouvernement à genoux en 5 jours s'il disait, écoute, on fait la gratuité, plus de contrôleurs, allez-y, on va vous montrer que nous, on n'est pas contre vous, on va vous trimballer simplement. Vous imaginez ce que c'est que le manque à gagner pour la SNCF? Mais ils seront malades, ils seront par terre. Ça, je crois qu'il faut sortir un tout petit peu de la boîte. Mais enfin, ça, c'est une opinion personnelle. Je voudrais que Dr. Torcron vous réponde, s'il vous plaît.
Mais c'est une bonne réponse, la gratuité, André. Parce que si mes collègues hospitaliers faisaient la même chose, arrêtaient de coter les actes pour l'hôpital, en 3 jours, l'hôpital les regarderait. Or, nos hospitaliers, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament le retour des vrais...
Rappelez que l'hôpital reçoit 200 euros par patient qui arrive.
Oui, mais surtout ce que réclament les hospitaliers, c'est d'enlever le pouvoir des agences régionales de santé, des groupements hospitaliers de territoire, des administrations, des pôles, et redonner le pouvoir et la responsabilité aux chefs de service avec de vraies écoles, de vrais internes, de vrais collaborateurs et de vraies infirmières. Et que ce soit eux qui s'occupent de la gestion de l'hôpital. Sinon, Buzyn ne réenchantera pas l'hôpital. Elle va avoir des démissions en cascade. Et ils vont partir dans le privé parce que le privé marche encore bien et pour beaucoup moins cher que l'hôpital.
Et en tout cas, on remercie Olivier et on part à Montpellier où Laurent nous appelle au 0826-300-300. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour à vous tous. Oui. Bonjour Jean. Bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir. Donc je voulais revenir sur la protection de la planète, là, hein, cette religion du moment.
Oui, oui.
Pour dire simplement que bon, la planète, notre planète ne risque rien du tout. Hein, c'est 30 km de roches posées sur le manteau visqueux, sur le manteau terrestre. Hein, donc ça a 4 milliards d'années, ça ne bouge pas. Le vivant a failli subir des extinctions massives, il n'en est rien. Nous sommes là pour le prouver. Ouais. Et l'humanité, ma foi, nous sommes un peu nombreux, nous avons quelques difficultés et quelques problèmes, surtout certaines personnes. Ouais. Mais ouais. L'humanité survivra pendant longtemps. Les humains, si on retombe comme il y a 10 000 ans à 100 millions de personnes, ben, ou peut-être moins, je ne sais pas exactement combien il y avait, ça ne risque rien. Et cette religion-là dont on nous rebat les oreilles pour sauver la planète, je ne la comprends pas bien. La biodiversité, elle est en danger dans certains secteurs et surtout il y a longtemps. C'était plutôt au 19e où sur les îles tout était. On le voit au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Hein. C'est surtout au 19e que les gens arrivaient et cassaient tout. Maintenant on protège quand même. Hein.
Et en tout cas, dites-toi, oui. Mais alors c'est, non mais moi c'est bien d'entendre aussi un climato-sceptique. Et vous avez, moi je crois que il faut vous entendre. Je suis pas d'accord avec vous. Enfin, la pollution des océans en revanche c'est autre chose, mais je crois que vous êtes d'accord que là ça pollue à mort. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un discours religieux, un discours messianique sur l'histoire de la planète qui est quand même qui devient de l'ordre totalitaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Juste un mot.
Oui. Sur la pollution de la planète, je suis d'accord avec l'intervenant. Les changements climatiques ont toujours existé. Est-ce que l'industrie humaine l'aggrave ? C'est probable. Mais je crois que si chaque citoyen était responsable, moi, par exemple, je ne vais plus dans les grandes surfaces pour pas avoir des plastiques et des emballages préparés. Voilà. Je vais au marché avec un sac qui est en papier de façon à pas polluer les océans. Car tout retourne à l'océan.
Bernard Cron, bon. Vous êtes un citoyen modèle.
How dare you, André Bercoff. Merci How à vous en tout cas. How dare you, André Bercoff.
How dare you
partir en vacances, vous qui allez fêter Noël et vous reposer du bon repos Noël, des justes en tout cas. Merci à vous, André Bercoff. L'émission continue, on écoutera encore vos interviews hein, pendant toutes les vacances. On sera ravis de vous retrouver en pleine forme avec le bronzage des bronzés font du ski à votre retour. On n'en doute pas. Quoi qu'il en soit, belle journée à vous sur Sud Radio. D'abord, je voudrais annoncer un événement qui est très important. C'est ce soir, c'est en direct à 20h sur Sud Radio. C'était présenté par Yvan Cugius avec Joyce Jonathan. C'est la finale du prix du concours Centre Accord Loft Music Sud Radio. Très important, vous verrez les meilleures chansons qu'on a sélectionnées. Mais pour l'heure, on poursuit la journée à l'écoute de Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit aujourd'hui la directrice de Miss France Organisation, Sylvie Tellier. Belle journée à vous sur Sud Radio.